תפילות דה ראש השנה, שרזה מי השם עליכם תחיו ולאורכם מטובים ושנים נעימים. Le jour de Rosh Hashanah, nous avons l'habitude de lire le psaume 81, L'Amnatseach ala Geitit le'Asaf. Ce psaume parle de la sortie de prison de Yosef, qui s'est déroulée le jour de Rosh Hashanah. Il parle aussi de la libération future de Am Israël d'Égypte, qui s'est passée un jeudi. C'est pour cela que ce psaume-là est lu le jeudi, le Yom Hamishi. Parce que la libération qui va se produire en Égypte, le jour de Nissan, la sortie d'Égypte, eh bien, cette libération-là a été fixée quand? Le jour de Rosh Hashanah qui a précédé. Et de même, le jour de Rosh Hashanah est fixé la sortie de Yosef de prison et fixer la décision, la nouvelle que les Imaot vont avoir des enfants. Et d'autre part, dans ce psaume, il est mentionné le son du shofar de manière explicite. C'est de là que vient donc l'habitude de lire ce psaume le jour de Rosh Hashanah. Alors nous commençons la lecture. L'amnatseach ala Geitit le'Asaf. L'amnatseach, c'est le chef des chantres. La Geitit, c'est un instrument qui appartient à Asaf. Et Asaf est ce chef des chantres. Que signifie le mot l'amnatseach? Qui est Asaf? Et que contient ce chef des chantres? Quel est son rôle? Alors le mot l'amnatseach a le sens de victoire. Il a le sens aussi d'éternité. Il a aussi le sens de diriger l'orchestre qui chante, les chanteurs. C'est celui qui va insuffler à ses musiciens, à chacun des membres de la chorale qui chante, il s'agit des Lévi'im, le souffle, l'inspiration, la puissance de la passion, de la louange qui va s'élever vers Hachem. Et le chef des chantres ressemble à un chef de guerre qui va haranguer ses soldats qui va leur transmettre sa conviction, sa force, son énergie, de telle sorte que tous seront prêts à le suivre, quelle que soit la bataille qu'ils devront livrer, car ils sont sûrs, certains, de remporter, de gagner. C'est le sens de l'amenatseach. C'est ainsi aussi le rôle du chazan, du shaliar tzibour, qui quand il se place sur la Teva pour chanter, il doit insuffler à la communauté sa passion, son envie, son désir ardent d'élever la louange et de prier vers Hachem, de l'élévation spirituelle. De telle sorte que cette élévation-là et que cette prière atteint des niveaux tels que Asaf est considéré dans les textes, dans les Sefer Divrei Hayamim, comme étant un navi, un hosé. Il atteint l'extase de la prophétie. Il atteint l'esprit divin, l'enveloppe. Et c'est le sens de l'amenatseach. À la Geitit, il s'agit d'un instrument à cordes, comme une harpe, qui est particulier à la ville de Gath. C'est pour ça qu'il y a marqué à la Geitit. Geitit fait allusion à la ville de Gath. Selon d'autres commentateurs, c'est le chant qu'ont donné les ouvriers au pressoir lors de la presse des raisins. Les ouvriers, quand ils pressent le raisin, ils chantent pour se donner de la force dans le travail. Le raisin qui est d'abord écrasé donnera le meilleur des vins pour le plaisir du palais. Ressemble au parcours du juste qui est d'abord abaissé, méprisé, jeté en prison Il sera choisi pour les plus hautes fonctions. C'est la destinée de Yosef Hatzadik. Elle est à l'image de celle de la destinée d'Israël. Et ce vin savoureux, qui va vieillir, qui n'est dégusté qu'après un long travail de maturation, dans une cave obscure, fait allusion à cette démarche, à cette image d'Israël, du peuple d'Israël qui attend de récupérer la place qui est la sienne. Asaf fait aussi allusion au rassemblement des exilés. Et d'autres pensent qu'il s'agit des chants que les descendants d'Oved Hagiti chantaient dans le temple. Asaf est l'un des 10 personnages à qui sont attribués les psaumes de David, comme le dit la Gemara Babatra, la page 14a. Dans le livre des Chroniques, il est dit que David le désigna comme préposé au service musical du temple, en première position, comme il dit là-bas le verset. Voici ce que David préposa au service musical du temple de l'Éternel. Quand l'arche eut un emplacement fixe, ils s'acquittèrent de ce service musical devant le tabernacle, le Aaron à Kodesh, et la tente d'assignation, et le Mishkan, jusqu'à la construction par jumeaux du temple de l'Éternel à Jérusalem. Ils remplissaient leurs fonctions selon le règlement établi. Plus loin, il est dit dans les Chroniques, David, avec les chefs de l'armée, assigna une place à part dans le service du culte au fils d'Asaph, qui pratiquait l'art de la harpe, du luth et des cymbales. Suit, après, le dénombrement de ces artistes et des artistes exécutants, d'après la nature de leur emploi. Asaph est considéré comme un prophète, comme nous l'avons dit, de par sa connaissance de la musique. Il arrivait à atteindre l'inspiration. Il est qualifié Asaph Ahosé, et ailleurs il est dit Aliédé à Asaph Anavi. Selon Rabbi Hanan dans Kohelet Rabba, Asaph est en fait Avi Asaph, l'un des fils de Korach. La pureté de la musique qui accompagnait le chant des Lévi'im éliminait les forces négatives de la tentation et de la séduction des plaisirs de ce monde. Pour les juges, il s'agit d'éliminer l'envie et l'attrait, l'attirance qu'exerce sur eux le pouvoir de décision ou la tentation des pots de vin, afin que les jugements soient objectifs, justes et droits. Arninu l'Elohim ozenu, areo l'Elohe Yaakov. Arninu, célébrer à travers le chant, à notre Dieu, le Dieu de notre force. Areo, acclamer l'Elohe Yaakov, monter. Donc s'il s'agit ici d'élever deux sortes de chants et de louanges. Chanter ensemble, tous à l'unisson, notre Dieu. Quand nous disons l'Elohim, c'est l'Amida de Malchut qui, pendant l'exil, est délaissé de son bien-aimé. Akadosh Baruch Hu, acclamé par le son du shofar, par la teroua qui correspond à l'amida du Tiferet, celle de Yaakov. Le son du shofar le réveille afin qu'il tourne sa face vers la Shekhina. C'est cette union qu'il s'agit. C'est de cette union qu'il s'agit. Car alors, la délivrance est proche. C'est ça le sens. Ariou, Milachon, teroua. Élever une teroua, il y a deux sortes de sons du shofar. Il y a la terqia et il y a la teroua. La teroua fait allusion au son de la rigueur. C'est la midatadi qui est exprimée. Alors que la teroua, que la terqia fait allusion au chant et au son de la miséricorde. Seu zimra utnutov. Chanter, élever des hymnes, zimra, des chants, utnutov, et faites retentir le tambourin, kinor, la harpe, naïm, qui est agréable, imnavel, avec le luth. Il est ici cité 4 sortes de chants, allusion aux 4 niveaux de l'étude. Le sens littéral, le pshat, l'allusion, le remez, la déduction, le derouche, et le sod, le secret, les mystères de la Torah. C'est aussi pour les quatre exils, qui correspondent chacun à un niveau de lecture de la Torah. Ce dernier exil ne dépend que du secret, du sod. Élever le chant, c'est l'élévation de la Shekhina. Le tambourin, Tof, a pour valeur numérique 480, comme les féminités des forces de nuisance. Comme il est dit que la féminité de Klipot s'appelle l'Amedjout, l'Amedjoutav, elle a valeur numérique de 480. Ce chant, de par sa sainteté, élimine toutes les puissances négatives, afin que l'union soit parfaite et que les flux puissent se répandre vers le bas. La harpe, Kinor, fait allusion à cette union parfaite à tous les niveaux de l'arbre séphirotique. Kinor s'écrit Kavav Reshnun. Alors le Kavav, valeur numérique de 26, fait allusion au nom de Katnet, Yutke, Vavke. Ner, lui, fait allusion à trois unions différentes. Au niveau, il y a trois compositions du nom qui sont au niveau de l'intellect. Alors là, il y a deux chèmes, Yod, Ke, Vav, Ke, qui est lié, qui est conjugué avec un autre chème, qui est Aleph, Ke, Yod, Ke. Et la composition des deux fait valeur numérique de 45, c'est au niveau de l'intellect. Au niveau de l'émotionnel, nous avons Yod, Ke, Vav, Ke, 26, qui est associé, conjugué avec le Elohim, Aleph, Lamed, Ke, Yud, Mem, valeur numérique 86, 112, ça fait 112. Et au niveau, au plus bas, au niveau de l'action, il y a toujours le Yod Kevavke, qui est associé avec le nom Aleph Dalet Nun Yud, qui a valeur numérique 65, ça fait 91. L'association des trois, des conjugaisons des trois associations, fait valeur numérique de Ner. C'est le Sod Aner. C'est la notion de l'allumage. Donc le Kinor fait allusion à la Har, fait allusion à cette union parfaite à tous les niveaux. De l'intellect, la compréhension des choses, l'émotionnel qui est en fait l'expression du chant, et enfin l'action. Dans l'action, il faut lier, quand nous accomplissons une mitzvah, il faut lui mettre la compréhension intellectuelle et lui associer les émotions, traduire nos émotions dans l'action. Tikou bahodesh shofar bakesel yom hagenu. Sonnez du shofar à la nouvelle lune, au jour fixé pour la fête, pour la solennité. Alors, le tikou bahodesh shofar, sonnez du son. Ici, il est mentionné comme dans le sens de tekea, qui est un son simple et continu. Il est celui de la bonté. Le jour de Rosh Hashanah est aussi un jour de Rosh Chodesh. Mais nous disons que la lune est cachée, comme pour ne pas déclarer que ce jour est aussi le jour du jugement, afin que les accusateurs en soient exclus. Le jour d'Oshana était Yom HaKessé. Au son du shofar, nous proclamons Hachem roi, et que nous sommes ses serviteurs. La royauté des cieux ressemble à celle de la terre, lors du couronnement d'un nouveau souverain. Celui-ci accorde sa grâce aux condamnés. De même, le jour de Rosh Hashanah, le roi de l'univers nous accorde sa grâce au son du shofar, qui annonce la libération. Tigro bahodesh shofar bakesel yom hagenu. Quand nous sonnons en bas, en fait, nous réveillons le son du shofar du haut, celui que nous implorons tous les jours dans la prière. Teka be shofar gadol. Sonne-toi, Hachem, du grand shofar. Ce shofar-là qui annoncera la délivrance est le shofar du ciel. Celui qui a déjà retenti lors du don de la Torah. Qui hoc le Israël, hu mishpat l'Eloi Yaakov. Car c'est une loi en Israël. C'est une loi fixe. Un décret gravé. Hoc milachon. C'est quelque chose qui est gravé. Une coutume. Mishpat. Une coutume. Une habitude. En l'honneur de Eloi Yaakov, le Dieu de Yaakov. Chaque année, en ce jour, jour de Rosh Hashanah, Hachem juge chaque individu et l'ancien de la création. Les années s'inscrivent dans les siècles qui sont eux-mêmes liés aux millénaires qui correspondent. Les années correspondent ainsi aux sphirotes. Ce sont elles qui confèrent au temps sa qualité. Chaque année possède une particularité spécifique, un projet particulier. Par le jugement d'Hachem, il distribue aux hommes les moyens de remplir cette mission. Le projet d'Hachem va de l'avant Il se réalise de toute façon. La question est, qui y participera? Qui s'y inscrira? Edout Beyosef Samo, c'est un témoignage qui établit Yosef, Betseto Aleras Mitzrayim, quand il marcha sur la terre d'Égypte. C'est facile à Dathieshma. J'entendis alors des paroles, des mots, des langues qui étaient inconnues pour moi. Pharaon fit ses rêves la nuit de Rosh Hashanah. C'est dans la journée que Yosef lui fut présenté et qu'il lui en donna la vraie interprétation. Pharaon le nomma vice-roi. Quand Yosef lui prouva qu'il maîtrisait les 70 langues, Yosef les avait appris de l'ange Gabriel qui lui a ajouté un « hé » dans le nom, dans son nom, le « hé » du nom de Dieu. Ici, il est dit « Edot, Edot, Bi-Hosef, Samo ». Il y a un « hé » en plus. Yosef s'écrit « Yod, Vav, sa mère, P » alors qu'il lit ici, il est écrit « Yod, Ke, Vav, sa mère, P » et par le fait que Yosef a appris les 70 langues, donc on a ici rajouté et mentionné le « hé » supplémentaire. Ainsi, son nom comporte à présent les trois lettres, les trois premières lettres du nom de d'Hachem, Yod, Ke, Vav, celles qui traduisent la masculinité. Elles englobent toutes les influences et les flux qu'Hachem dispense dans ce monde. L'union de ces trois lettres et leur harmonie est symbolisée par la dernière lettre du nom, le « hé » final. C'est l'arrangement de la perfection qui découle de cette union, qui se réalise par la royauté de Yehuda à travers la personne du roi David. Nos maîtres enseignent, Yosef a sanctifié le nom de Dieu en privé. On lui a rajouté une lettre du nom, le « hé ». Yehuda, lui, a sanctifié le nom de Dieu en public. Alors son nom contient les quatre lettres du nom de Dieu. Et en plus, il a le dalet de la royauté de David. Yosef est celui qui permet à la royauté de David de se réaliser. Il ne détient le pouvoir que pour cela. Son travail se fait dans la discrétion. Il n'est pas apparent. Son mérite et sa piété ne seront publics qu'en fin de parcours. C'est alors que ses frères le reconnaîtront et reconnaîtront sa véritable valeur. Hasiroti misevel shichmo. J'ai déchargé le fardeau de ses épaules. Kapav midoud ta'avorna. Ses mains sont affranchies du lourd panier. Le juste est poursuivi, attaqué, opprimé par les fausses nuisances qui font tout pour que le tzaddik ne puisse s'exprimer et s'épanouir. Mais à la fin, Hachem le libère des chaînes qui le retiennent. Quand arrive le temps, le juste est relevé, rétabli et enfin considéré à sa juste valeur. Tout comme Israël qui sera libéré d'Égypte et de son esclavage pour devenir le peuple d'exception au service d'Hachem. Kapav midot ta'avorna, les dernières lettres font allusion au cinquième jour, celui de l'exil. Il forme le mot dava. La destruction du temple aurait dû durer 1000 ans. Le cinquième jour, le cinquième millénaire. Donc c'est dava, kol hayom dava, tout le jour. Dava fait allusion à la sphira de Hod, la huitième sphira. Batsara karata va haletseka. Dans la détresse, tu as appelé et je t'ai délivré. Besetera'am ephoncha, encha besetera'am ephoncha al memeribasela. Je t'ai exaucé au sein du sein du mystérieux de la foudre et j'ai éprouvé auprès des eaux de Meriba. C'est le temps de l'exil, où nous ne pouvons qu'implorer la miséricorde pour qu'il nous libère enfin. Les étapes de cette délivrance, Hachem les réalise dans la discrétion afin que les forces de nuisance ne puissent les retenir. Le mot Ra'am est une allusion certaine au sauveur descendant d'Ishaï, le père de David, quand il est écrit en développant les lettres comme suit. Resh, Aïn, Mem. Ra'am s'écrit Resh, Aïn, Mem. Quand on écrit Resh en entier, Resh, Yud, Shin. Aïn, Aïn, Yud, Nul. Et même, on obtient les lettres intérieures du mot Ishaï. À l'intérieur, il y a le mot Ishaï. Min Ishaï de Ishaï. C'est de lui que viendra le salut. Quand le sauveur apparaîtra, le juste risque encore d'être mis à l'épreuve. Il faudra alors se renforcer dans la foi, dans la Emouna, et s'y agripper de toutes nos forces. Shema Ami Ve'aïdabar, écoute mon peuple, je veux te mettre à l'épreuve, t'adjurer, te faire témoigner. Oh Israël, Im Tishmaali, oh Israël, si tu pouvais m'écouter. Mon peuple, hein, se dit quand le peuple est au niveau spirituel le plus bas. L'exil en est la cause. Hachem nous rappelle alors à l'ordre, renforcez-vous, soyez dignes de la Torah que vous avez acceptée. J'ai placé mon nom en vous. Par le mérite de la lecture du schéma, matin et soir, par celui que vous avez eu d'entendre les deux premiers commandements directement de la bouche d'Hachem, vous serez délivrés. Lo yebecha el zar, il n'y aura pas chez toi de divinité étrangère. Tu ne te prosterneras pas devant un dieu du dehors, de l'extérieur, étranger. Il s'agit du deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre dieu. Tu dois éliminer le Etzerara, le séducteur qui te pousse à douter. Car tu risques alors de te prosterner aux divinités et d'adopter les croyances illusoires. Anochi Adonai Elohecha, Amalcha Meres Misraim. Alhef Bichava Amaleu. Je suis moi l'éternel ton dieu qui t'ai tiré du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Quel mérite avaient nos pères en Égypte pour que Hachem les en fasse sortir? Uniquement l'engagement d'accepter la Torah. Le premier des 10 commandements, comme par Anochi Hachem Elohecha, je suis l'éternel ton Dieu. C'est la mitzvah de Emouna. Savoir que je suis Dieu, créateur, qui intervient dans son monde, selon sa propre volonté. La direction particulière par laquelle Hachem dirige son monde pour Israël ne dépend que de la Emouna. Cette direction qui apparaît à la sortie d'Égypte, qui préserve Israël pendant l'exil, se renouvellera lors de la délivrance. Alors Hachem nous comblera de toute cette bénédiction. Velo shama amin ekoli, mais mon peuple ne m'a pas écouté ma voix. Israël a avali, Israël a refusé de m'obéir. Déjà dans le désert, ils se sont détournés de Dieu lors de la faute du veau d'or, celle des explorateurs, quand ils réclamèrent de la viande, la rébellion de Korah, quand ils fautèrent avec les femmes de Midian. De même, de tout temps, Israël, de par ses faiblesses, s'est laissé séduire et a trahi la confiance de Dieu. De toutes ses fautes, celle qui a les conséquences les plus dures est celle de l'attirance des femmes étrangères. Elle donne de l'amplitude aux forces de nuisance et retarde la délivrance. Vachalecheu beshirut libam, je les ai donc abandonnés à l'entraînement de leur cœur. Ils ont été séduits par leur cœur. Yelchou bemoatsotehem, qui suivent leurs propres inspirations. Toutes ces fautes font que la direction particulière de la miraculeuse qui convient à Israël est étouffée. Elle ne s'exprime pas. Nous sommes comme livrés entre les mains de la direction globale du monde. Notre destinée est alors mise en attente. Loami shomea ali, Israël bidracha et alechou. Ah, si mon peuple voulait m'écouter, Israël marcherait dans mes voies. Si seulement ce peuple entendait l'appel du Seigneur, s'il voyait la lumière de celui qui l'illumine, toutes les tentations et toutes les séductions seraient alors futiles à leurs yeux. Lou, la Medvav, fait allusion aux 36 lumières de la fête de Hanouka, qui correspondent chacune à une heure de la première lumière Oraganouz, celle de la création qu'Hachem a enfouie dans la Torah, afin que les méchants, les Réjans, ne puissent en disposer. Cette lumière existe, il faut chercher à s'en éclairer, afin d'être prêt le jour où elle réapparaîtra. Kimat oyveim achnia, ve'altsareim achiv yadi. Bien vite, je dompterai leurs ennemis. Je ferai peser ma main sur leurs adversaires. Ce sont les forces de nuisance qui seront alors soumises. Elles ne causeront plus de tort à Israël. Elles rentreront dans le giron de la Kdusha et elles rendront toutes les énergies perdues tout au long de l'exil. Mais ceux qui haïssent l'Éternel ramperont devant lui. Et mais leur bonheur à eux durerait pour l'éternité. Tous ceux qui s'en prennent à Israël sont les ennemis d'Hachem. Ils sont qualifiés de ceux qui haïssent l'Éternel. Quand alors ces forces, après avoir rendu ce qu'elles ont détourné, seront enfin éliminées et disparaîtront. La réussite totale de la sainteté sera éternelle. Voyachileu mehelev hita, ou mitzur de vache asbiaeka. Il les nourrirait de la moelle de froment, le meilleur helev hita, le meilleur du blé, et les rassasierait avec le miel des rochers. Il les a déjà nourris de cela dans le désert. Il s'agit de la manne. Le verbe nourrir est au passé. Voyachileu. Cependant, le miel de roche, tsour, et l'eau du puits de Myriam. À son sujet, il est employé deux termes, Sela et tsour. Ils ont été nourris dans le désert du miel de Sela, alors que pour celui de Tsour. Il n'est dit cela. On ne dit pas ce même terme. Le verset dit, il l'a nourri avec le miel de roche, avec l'huile de la roche pierreuse. Il l'a nourri comme le nourrisson qui tète le sein de sa mère. En toute petite quantité, ils n'en ont pas été rassasiés. Quand Israël aura enfin le mérite de goûter et d'en manger à satiété, alors les portes du savoir s'ouvriront devant lui. La compréhension de la Torah prendra sa véritable dimension, celle des secrets profonds. C'est le sens de ce psaume que nous lisons le jour de Rosh Hashanah, parce qu'en fait, dans Rosh Hashanah est contenue toute la libération, la graine, la décision, le décret qui va se produire à Rosh Hashanah est en fait et tout le sens de notre prière est la délivrance totale et le retour, le rétablissement de la royauté d'Hachem uniquement pour sa gloire. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.